Rádio Alfa. Passagem de nível com Arthur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós neste domingo, dia 20 de março, na vossa companhia até às 14 horas. Eu lembro que a emissão tem redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Exílio sem fronteiras, percursos e memórias de exilados militantes, o tomo 3, que acaba de ser publicado pela Associação de Exilados Políticos Portugueses, AEP 6174. E Exílio, témoignages d'exilés des arteurs portugais edition Champagne. Trata-se de uma seleção de 13 testemunhos tinham sido publicados nos exílios 1 e 2 da mesma associação. Le sens pratique de l'hospitalité à accueillir les étrangers en France 1965-1983 na CNRS Edition. Teremos dois historiadores para nos falar precisamente disso e, evidentemente, sem esquecer, andai a comunidade portuguesa. No dia 23 de março, 20 anos da criação da Cátedra Lindley Sintra na Universidade de Paris-Nanterre, e falaremos igualmente da 23ª edição do Cinema Lusófono, de 29 de março em Nice, graças ao In the Beau Soleil. Sem esquecer que Portugal é o tema de edição 2022 do Festival Ici et Ailleurs, de 23 a 27 de março em Lompon-sur-Orge, no departamento 71. Mas para já vamos até Portugal. Fernanda Marques, muito boa tarde.
Boa tarde, como está?
Tudo bem, obrigado por estar connosco e espero ter dois companheiros, Artur Monteiro de Oliveira, que está aqui em França, e José Lousa, que está reformado em Portugal. Ora, para já, este, bom, chamo-lhe tomo 3, impropriamente, na realidade Exílios 3, percursos e memórias de exilados militantes. O que podemos dizer para já é que há uma grande diferença relativamente ao Exílios 1 e Exílio 2. Tudo foi reformulado, tudo foi repensado, não?
Eu não diria reformulado e repensado, eu diria mais, digamos assim, entrarmos num novo paradigma. Portanto, na primeira série de Exílios 1 e 2, nós tivemos, digamos, a recolha das memórias individuais de quase uma centena de jovens que se exilaram em França em virtude da situação de ditadura em Portugal e da guerra colonial. E nesta segunda série de exílios nós quisemos, digamos assim, dar um passo em frente e estabelecer um novo paradigma. Daí o termo sem fronteiras, ou seja, refletir coletivamente sobre o exílio sem limites e, portanto, sem fronteiras. Ou seja, esta designação do sem fronteiras não tem a ver com as fronteiras físicas, mas com as próprias fronteiras que nós, por vezes, estabelecemos a nós próprios quando recordamos, digamos, esse período que foi tão difícil e tão de tanto sofrimento para grande parte da juventude portuguesa.
Ora, portanto, é precisamente ao índice temático, não é?
Exatamente.
Isto é bastante importante porque vamos ter dois depoimentos, precisamente. Bom, e os depoimentos, é verdade, mas disto temos que fazer, dedicar uma hora inteiramente, uma ou mesmo duas horas, se for necessário, tanto mais que está a chegar à porta mais um aniversário do 25 de Abril. É precisamente, bom, as temáticas, bom, Portugal antes de Abril.
Não percebi a sua pergunta, Arthur.
Portugal antes de Abril é o primeiro tema temático.
Exatamente,
do livro.
Exatamente. Quer dizer, no fundo, o que se pretendeu foi estabelecer as raízes daquilo que depois nos leva ao segundo tema, que é o tema da viagem, do salto, passar para o outro lado, no fundo, não é? Como é que cada um destes 19 autores do livro viveram o Portugal antes de Abril. E isto é muito interessante porque, para além de nos dar, digamos, uma panorâmica, ainda que limitada, obviamente, mas uma panorâmica do que era o Portugal antes de Abril, dá-nos também uma visão refletida dos diversos contextos sociais e económicos que levaram estes jovens a caminho, digamos assim, do exílio. E consideramos que essa abordagem é importante porque, no fundo, depois é o fio condutor ao longo dos diversos temas, não é? E dá-nos, digamos assim, também essa mesma condução de percursos para depois o último tema, que é no fundo o tema da, do valor da experiência e o sentido que cada um dos autores lhe atribui.
Aliás, sobre a viagem, o salto e a passagem de fronteiras, espero bem que o José Lousa nos explique a história dos três guarda-costas. Bom, isso falaremos com ele. O meu aspirante pode contar connosco, mas enfim, falaremos disso um pouco mais tarde. Precisamente, finalmente, bom, o que se vê através de... Bom, há grandes testemunhos, há pequenos, porque isto está tudo dividido e encontramos os diversos intervenientes em todos os temas, não é? Porque é importante, porque uma coisa é partir, conseguir chegar, e outra coisa depois é encontrar espaço. Refazer praticamente uma nova vida no exílio, nomeadamente aqui em França, não?
Exatamente. Portanto, há os diversos contextos de trabalho ou de estudo, os diversos contextos das comunidades onde estes 19 autores se inseriram. Temos, digamos assim, narrativas extraordinariamente interessantes, por exemplo, dos diversos focos de trabalho, desde a Renault até ao trabalho nas comunidades portuguesas. Portanto, como é que essa inserção foi feita? Como é que a integração nas diversas sociedades, temos o caso também da Holanda, da Suécia, como é que, digamos, esses jovens se inseriram nessas comunidades e quais foram, digamos assim, os seus percursos de vida nessas comunidades. E portanto, esse tema das vidas na nova vida, digamos assim, é um tema muito interessante e que a mim me tocou particularmente, porque eu tive também essa experiência de percurso e sei bem as dificuldades com que nos confrontámos, as alterações de vida que isso implicou, de experiências, de trabalho, etc. E, portanto, esse tema é muito interessante.
Ora, precisamente, temos já connosco...
Esqueci-me de referir, Arthur, que é depois os contextos de militância, não é? Nessa nova vida. Uma militância em liberdade, como um dos autores refere, não é? Que era uma experiência nova, que foi uma experiência nova para todos nós.
Sim, com efeito, e houve maio, no meio disso tudo, maio de 68.
Arthur, exatamente.
Arthur Monte de Oliveira, muito boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado boa tarde. Por estares connosco aqui, eu posso tratar por tu, porque, bom, deixemos essas diplomacias para quem quer que seja. Precisamente, estamos a abordar com Fernanda Marques as incertezas dos primeiros tempos. Ora, Artur, a Cafrique estás exilada há 55 anos, 55. Sim. De maneira que, ora, as incertezas dos primeiros tempos. O que é que vem fazer no meio disto tudo, a baguete e o metro no Quartier Latin?
Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos e a todas, e obrigado por este convite, e de facto é uma experiência interessante a publicação deste exílio 3. Para vir à tua pergunta, quer dizer, a descoberta para alguém que eu vivi 20 anos no Porto, praticamente nunca tinha saído do Porto, e trocar o Porto por Paris era descobrir toda uma forma de viver, uma outra língua, porque eu não tinha estudos e pouco falava francês, portanto uma outra língua, um outro ambiente, e a baguete, que era de facto, que é uma característica francesa, não é? A buena e a baguete, e eu não tinha buena, mas tinha baguete. Quer dizer, o Quartier Latin, porque o Quartier Latin? Porque foi aí que, quando vim para a França, que tinha uma morada na Rue Cujas, e foi aí que começou a minha a versão dos meus 55 anos de vida francesa.
Mas, Arthur, há uma avenida muito especial, a Avenida de Choisy. O que é que se lá passou?
Sim, a Avenida de Choisy, bom, isso foi já um pouco mais tarde, e aí foi o meu encontro com, nomeadamente com a Sara Mancio, onde o meu filho, que Helder, que nessa altura tinha 3 anos, na escola materna, infantil, encontrou a Clara, que era filha da Sara Amâncio, que vivia lá com a Jacinta, que é a mãe do Helder, e de facto foi um início também de uma, se não de uma militância, pelo menos de uma amizade, e a militância veio a seguir na relação com ela, na ideia de juntar as crianças portuguesas, quer dizer, pelo menos ao domingo, com aquela idade, para que continua a haver assim, um pouco do ar português, quando nós estávamos todos, de uma certa maneira, num contexto francês e bem francês.
Ora, isso faz parte das vidas, da nova vida, e precisamente tiveste a ocasião de dizer a vida com e para os portugueses. Bom, podemos falar da Renault, podemos falar de muitas coisas, precisamente é as vidas na nova vida, para e com os portugueses. Isto tem bastante significado.
Sim, quer dizer, sem ser longo, mas a minha vida para a França, portanto, era num contexto de recusa da guerra colonial, depois de algum tempo na prisão no Porto. Vir para a França era um corte com o que tinha passado, o que eu tinha vivido em Portugal. E ao mesmo tempo eu sentia, tinha uma sensação, mas eu explico um pouco isso, tinha uma sensação de que, no fundo, desertar da vida do exército em Portugal era também desertar de uma certa maneira da luta, porque era na luta política em Portugal que as coisas se viriam a modificar. Portanto, foi assim passar de uma experiência. E para mim, trabalhar aqui na imigração e com os portugueses, com os compatriotas, com aqueles com quem eu tinha alguma coisa de imediato a partilhar, foi de facto o início de diferentes vidas, depois vidas mais militantes, vidas mais associativas, vidas mais recreativas, porque também havia. Portanto, eu tenho a impressão que para o exilado, E neste momento há coisas importantes que se passam no mundo e à nossa porta na Europa, para o exilado, o confronto com um novo país, com um novo clima, uma nova cozinha, tudo isso suscita, suponho eu, e estou um pouco persuadido disso, suscita formas de viver novas, encontros diferentes. E como eu confio muito no encontro com os outros, e acho que é no encontro com os outros que nós nos vamos pouco e pouco alinhavando e construindo, não é? E portanto foi um bocado isso. Quer dizer, desculpa da minha resposta.
Não, pelo contrário, mas Arthur, o que eu proponho, e já tínhamos falado nisso, aliás, é que podemos consagrar uma emissão sobre isso, com um certo número de intervenientes, com aquela música que nos acompanhou igualmente. Daqui a bocado espero bem também ter o José Lousa, o meu aspirante. Bom, ele vai-nos falar nisso. Uma última questão, bom, e teremos depois a ocasião para desenvolver. Cito-a: quando partimos, perdemos o que se vai passar no futuro.
Sim.
Isso tem a ver com voltar ou ficar após o 25 de Abril, foi?
Pois, quer dizer, essa frase, assim como título, dá a impressão que é uma frase assim empolada, importante, etc. No contexto do pequeno texto que me foi permitido escrever, o que eu queria dizer é que, de facto, quando se parte, e eu tenho essa sensação em relação a Portugal, quando parti, o futuro do que se passava em Portugal, de uma certa maneira, me escapou, não é? Eu, quando voltei a Portugal depois do 25 de Abril, dei-me conta que, bom, era um momento de euforia, era extraordinário, e ao mesmo tempo muitas outras coisas se tinham passado em que eu já não reconhecia, não é? Por outro lado, como se costuma dizer, quando se parte e quando se regressa, não se tem o mesmo olhar para o que se deixou e o que se vai encontrar. Portanto, é um bocado nesta ideia que de facto, o desenvolvimento do local onde nascemos, e quando nós não o acompanhamos sempre, vai-se passar sem nós, não é? E é esse futuro que nos escapa. mesmo que, evidentemente, nós encontremos outros futuros, e o futuro que eu encontrei em França e que tentei construir para mim, depois para os meus filhos, é um bocado nessa ideia. Portanto, nós somos feitos, parece-me a mim, de onde viemos, não é? Mas também de onde estamos, não é?
Daquilo que
de uma certa maneira, é a interação entre estes dois movimentos, não é? Que Arthur, não são só dois, que são múltiplos, não é?
Arthur, evidentemente que vamos dar tempo, a ter tempo e convidar outros companheiros igualmente para nos falar disso, porque ao falar do passado, penso eu, bom, que temos que ver o presente. Bom, basta ver aqui o que se está a passar, guerra na Europa e por aí fora. Sim, Arthur, até muito breve, obrigado, e voltaremos ao assunto sem esquecer. Está bom?
Está bem, e obrigado por este convite e uma boa tarde a todos.
Obrigado, e dentro de alguns tantos contamos ter José Lousa. Ora, Fernanda Marques, de maneira que havia um projeto que era precisamente um livro Sete Mulheres no Exílio. De maneira que esse projeto continua de pé, penso eu. Bom, tem que avançar talvez mais lentamente, na medida que para já há que falar e distribuir o Exílio 3, não?
Exatamente, portanto, esse projeto está em conclusão. Está em conclusão com uma novidade muito boa, que é começarmos já as filmagens para dois documentários na RTP2 sobre o livro, portanto, dois documentários de 50 minutos cada, já estão a ser feitas as filmagens e todo esse processo. E, portanto, nós contamos, é um trabalho de ano e meio, de encontros sucessivos entre as sete intervenientes do livro. Contamos enviá-lo para a edição no mês de maio, portanto, logo a seguir ao verão, uma vez que o verão não é uma boa altura para publicar, logo a seguir ao verão o livro estará cá fora. Mas para já estamos nesta aventura dos dois documentários da RTP2, que para nós é ótimo.
Ora, mas já voltamos, vamos até Portugal. José Lousa, muito boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado por estar connosco, já tivemos o Arthur Monteiro de Oliveira. Ora, José Lousa, está de regresso a Portugal, mas digamos que esse regresso, bom, havia a euforia do regresso, mas chegou para repartir de Portugal, foi?
Depois do 25 de abril. Eu regressei em 79, já lá vão uns aninhos, não é verdade?
Eu disse que são 50 anos de refrega, o que é que significa exatamente?
50 anos de refrega? Fui eu que disse isso, já não me recordo.
Sim, sim, está escrito, está na página 123.
Ah, na página 123.
123, posso ir à procura dela, do livro, exatamente.
Ora bem, 50 anos, eu ia referir-me a 50 anos de militância no terreno ecologista. Era isso que eu me referia, visto que isto começou. Começou em França, bem entendido, não é? E com o combate ao plano nuclear francês na altura.
É verdade. Mas agora, José Lousa, meu aspirante, deveria eu dizer, a sua passagem pela fronteira, que arrancou no dia 15 de março de 1966, o grupo era composto por nada menos que 315 homens e duas mulheres, uma das quais notoriamente grávida. Ora, curiosamente, tinha três guarda-costas, vale a pena explicar aqui o que se passou na altura?
Pois sim. Bom, eu era desertor. Uhum. E naquele grupo, estive bastante protegido pela organização que me ajudou a passar a fronteira Portugal-Espanha. Mas a partir daí eu estava incluído no grupo como qualquer um dos outros, não é? Não havia diferença nenhuma de tratamento, etc. E então, mas tinha um companheiro que já vinha de trás. Aliás, vinha desde Lisboa, e que sabia do que se tratava. Eu naquelas 300 e tal pessoas, eu era aquele que corria mais riscos, ao fim e ao cabo, não era? No caso daquele grupo ser interceptado, quer em Espanha, quer em Portugal, bem entendido. Portanto, eu estava a falar com esse velho amigo que há muito tempo não contacto, não sei nada dele. Ele naturalizou-se, como eu, aliás, também me naturalizei. Ele naturalizou-se e ficou por França, em Fécamp. Foi onde ele passou a viver. E eu estava a falar com ele evidentemente que estávamos todos juntos num barracão e tudo isso, portanto as conversas não eram assim tão privadas quanto isso, e houve alguém que ao lado se apercebeu que era desertor. Automaticamente aproximou-se e disse: meu aspirante, uma coisa vou-lhe dizer, podemos não chegar, nenhum de nós pode não chegar à França, mas o senhor chega de certeza, o senhor é que tem que chegar. E disse ao homem: porque é que eu tenho esse privilégio? Mas que não seja por uma razão. Eu estou há quase 2 anos a pedir um passaporte, eu tive na Guiné 2 anos e tal, a pedir um passaporte para emigrar, e não me deram o passaporte até hoje, e eu aqui estou, e devia era ter desertado logo. Fui chamar mais dois companheiros, que eram moços das Caldas da Rainha, e então, e eles, a partir daí, passei a ter 3 guarda-costas. Não podia dar um passo para o lado sem ter aqueles planos atrás de mim. Tenho muita pena, nunca mais os vi. Eu deixei-lhes a direção, eles não tinham direção nenhuma, não é? Eu não tenho bem a certeza, já não me recordo, creio que eles ficaram em Champigny, porque o autocarro que nos trouxe até Paris, que foi aliás um autocarro arranjado pela gendarmerie de Cambo-les-Bains, foi onde nós chegamos, é que nos arranjaram 2 autocarros para trazer aquela gente. Nessa altura já não estávamos os 300, éramos só 127. Porque os outros tinham seguido para outros locais. E foi a gendarmerie que nos arranjou 2 autocarros para nos transportar até Paris. É evidente que nos depositaram em Champigny.
José Lousa, teremos ulteriormente tempo para desenvolver mais, com nesse caso fazer uma troca mesmo, um vai e vem entre diversas pessoas que foram obrigadas a exilar-se, mas rapidamente vou-lhe pedir um minutinho ou dois. Este casamento no 5º bairro parisiense com o maire era um antigo resistente, ora precisamente para alguém, um desertor do exército colonial, a ser casado por um antigo resistente que lutou contra o nazismo, isso era, que, como dizem os franceses, un clin d'œil de l'histoire, não?
Pois, tivemos direito a um discurso antifascista para grande espanto de toda a gente, não é? Porque aquilo era um sábado, havia vários casamentos. Que fique para a história que o maire do 5º arrondissement era, na altura, o René Capitain. Considerado, e de certeza que eu era, um golista de esquerda. E ele fez esse discurso, para grande espanto, os assistentes não estavam habituados àquele tipo de discurso durante os casamentos, com certeza.
José Lousa, muita coisa haveria a dizer, uma diversidade dos campos políticos e, lógico, coisas que estávamos aqui confrontados no bom sentido do termo, o Quartier Latin e mesmo o exílio, longe de ser dourado, mas confortável, cito. Mas isso teremos a ocasião de desenvolver mais tarde. José Lousa, muito obrigado, um abraço aqui de Paris e até muito breve, então.
Adeusinho, adeus.
Muito obrigado. Fernanda Marques, são 2 pequeninos exemplos, há muitos mais, evidentemente, e vamos dar tempo a um tempo consigo também para podermos desenvolver, porque isso é uma página da história de Portugal e, sobretudo, que acontecer desertor e refratário. Em Portugal éramos traidores à pátria, entre aspas, algo que ainda hoje não é nada pacífico.
Exatamente, não é nada consensual.
Exato. Fernanda Marques, muito obrigado. Ora, aqui penso que vamos encontrar o livro, nomeadamente na livraria portuguesa e brasileira, a chamada Livraria Chandanha, é isso?
Ainda não, digamos, ainda não estabelecemos, digamos assim, esse acordo no sentido de poderem encontrar, mas poderão sempre, digamos assim, solicitar o que nós enviamos, portanto, à associação, através daquele mail que eu já dei ao Arthur da última vez que estivemos, digamos assim, a conversar, que é o geral@aep61-74.org. E, portanto, nesse sentido, espero que todos aqueles que até estar em distribuição em França, todos aqueles que pretendam ter acesso ao nosso livro, o possam fazer através de comunicação eletrónica.
Sim, senão temos o Facebook igualmente e a partir daí podem
exatamente,
ter...
Exatamente.
www.aep61-75.org, mas vão ao Facebook da AEP 6174 e podem encontrar isso. Fernanda Marques, muito obrigado e até muito breve, então.
Até muito breve, obrigado a todos por este convite.
E dentro de alguns minutinhos vamos falar da seleção de 13 depoimentos retirados de Exílios 1 e 2, que foi traduzida em francês por Hilda Nunes, e teremos a ocasião de falar com o historiador. Témoignages d'exilés et de déserteurs portugais. Já temos um seguimento do vosso trabalho em francês. Até breve, Fernanda.
Até breve.
Muito obrigado. E nós voltamos dentro de alguns instantes. Rádio Alfa. Eu reviens ao direct. On a parlé de exílios em português, maintenant on va parler de exil, témoignages d'exilés, de déserteurs portugais. Il s'agit de 13 témoignages extraits de deux volumes de Exílios, testemunhos de exilados e deserteurs portugueses 1961-1974, qui ont été publiés en 2016 et 2017 par la AEP 61-74. Victor Pereira, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est vous qui faites la préface de ce livre. La traduction a été assurée par Hilda Nunes. Alors, je rappelle, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Pau et de l'Adour. Justement, dans cette préface, bon, vous commencez pour faire, disons, un petit rappel historique de qu'est-ce que c'était le Portugal, etc., etc., parce que sans cela, on ne va pas comprendre. D'ailleurs, le titre de votre préface, guerre à la guerre.
Oui, je fais une petite présentation du Portugal salazariste et des guerres coloniales, parce que le livre s'adresse quand même à un public français, donc avec l'idée qu'une personne qui n'a pas connu cette histoire ou qui la connaît assez peu puisse la comprendre et aussi la rattacher à un mouvement plus général qui était les mouvements anticolonialistes et anti-impérialistes dans ce qu'on appelle les années 68, donc après la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam et d'autres combats qui ont eu à travers le monde. Et le livre, est très international, parce qu'il y a des témoignages qui parlent de la France, du Brésil, d'Alger, de la Suède. Et donc, c'est un peu ça que j'essaie de mettre en avant.
Alors, il y a un certain nombre de témoignages. Bon, j'ai dit, il y a 13. Il y en a un qui est assez... Bon, comme les autres, sont intéressants, mais enfin... « Lettre à mon voisin qui a fait la guerre coloniale ». Bon, c'est un texte de José Valadas. Parce qu'effectivement, c'est ça que je parlais tout à l'heure avec la responsable de l'association exilados políticos portugueses, Fernando Marques, justement. Parce qu'il fait une lettre à quelqu'un qui a fait la guerre coloniale, parce que cette histoire de désertion, les réfractaires, les insoumis, etc., même aujourd'hui, c'est toujours un motif de discussion. Et quelle discussion ?
Tout à fait. Alors, il y a différentes façons de voir un verre, à moitié plein ou à moitié vide. Là, en l'occurrence, il y a eu beaucoup de jeunes insoumis et réfractaires, un peu moins de déserteurs, parce que c'était quand même plus compliqué, c'était plus dangereux. Et donc, le chiffre, notamment avancé par Miguel Cardin et Susana Martinez, c'est d'évoquer 200 000 jeunes qui ont été à l'étranger, notamment la France, pour ne pas faire leur service militaire. Et en 72, il y avait quasiment 20% des jeunes qui ne se présentaient pas à l'armée, donc ce qui est quand même considérable. Mais la façon de voir aussi différemment les choses, c'est les 80% qui ont fait l'armée. en 72, année où il y a eu le plus de gens qui ont parti. Et pourquoi? C'est des questions aussi que je pose à la fin du livre, de la préface. C'est pourquoi quand même 80% des gens l'ont fait. Et est-ce que c'est parce qu'ils pensaient qu'Angola est nos, comme disait la propagande? Est-ce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, en fait, s'ils voulaient continuer à vivre au Portugal, d'être auprès de leur famille, d'être leurs proches? Ils n'avaient pas de choix. Beaucoup sont partis sans vraiment croire la propagande, mais en essayant de prendre le moins de risques et de dangers possibles pour eux et aussi pour les autres personnes. Et effectivement, dans la société portugaise, la soumission, la désertion a été mal vue. Elle a été mal vue à la fois par le régime, qui considérait que les gens qui ne faisaient pas leur service militaire étaient des traîtres. Et je cite notamment à un moment le ministre de l'Intérieur, qui a des mots très durs.
Repesote. Et alors, il enjoint, je cite, et enjoint les déserteurs à se suicider.
Exactement, à se pendre plus exactement. Donc ce type de propos extrêmement dur, et avec une mise en avant de la virilité. Si tu ne fais pas l'armée, si tu ne défends pas ton pays, c'est que tu n'es pas un homme et tu n'as pas les valeurs d'un homme. Donc ça c'est le régime, mais même au sein de l'opposition, les gens qui partaient à l'étranger étaient un peu, vu que la désertion moins, mais d'être réfractaire, était un peu mal vu, ne pas suivre les consignes du Parti communiste, c'est-à-dire d'aller être plus proche du peuple qui allait se battre et d'essayer d'expliquer aux gens en Angola, en Guinée-Bissau, que la guerre était mal, que c'était pour l'intérêt des colonialistes et des capitalistes, mais c'était pas facile à tenir comme position, ou ceux qui défendaient notamment la désertion avec des armes. Donc faites votre service militaire, apprenez à manier des armes et ensuite essayez de partir de votre garnison avant d'embarquer vers les colonies avec des armes. Et donc, ça a souvent été vu comme une sorte de fuite ou comme un manque de courage, tant de l'opposition parfois que du propre régime. Et donc, c'est pour ça qu'il est difficile, comme le montre Georges Barlas, encore aujourd'hui, de dialoguer avec des gens qui ont fait le service militaire par conviction ou parce qu'ils ne voyaient pas d'autre solution, ou même au sein de l'opposition, ça n'a jamais été un sujet aisé à discuter.
Ouais. Alors, étonnamment, c'est la France, bon, parce que c'est un pays qui était plus proche du Portugal, et qui a accueilli le principal contingent d'insoumis, de réfractaires, de déserteurs. Et toujours est-il que les autorités françaises n'ont jamais voulu, reconnaître leur statut de réfugiés. Bon, pourquoi? Parce que c'est parce que la France, à l'époque, elle avait des intérêts aussi. Elle soutenait militairement, et pas seulement, je me souviens des Panhards, des Berliers, camions Berliers, etc., etc., que la France fournissait au régime de Salazar.
Tout à fait. D'une part, là, les autorités françaises ont rechigné pendant très longtemps à reconnaître le statut de réfugié à les Portugais, que ce soit des questions de réfractaires ou déserteurs ou pas. Et ce n'est qu'à la fin des années 60 qu'ils commencent à changer leur doctrine et à reconnaître la qualité de réfugiés. Mais dans le cas des déserteurs et des insoumis, des réfractaires, la doctrine, c'est de dire que bon, ces gens-là, ne pas faire son service militaire ne veut pas toujours dire que c'est un acte contre la politique du régime. Et les États, en règle générale, ils n'aiment pas trop les gens qui ne font pas leur service militaire, parce que la France, à l'époque, il y avait encore un service militaire obligatoire. Mais aussi, ce que vous venez de dire, c'est que la France craignait que, en reconnaissant la qualité de réfugié à des déserteurs et des réfractaires, ça soit vu comme un geste inamical par les autorités portugaises. Et à l'époque, le Portugal était un bon allié de la France. Le Portugal était membre fondateur de l'OTAN, dont on parle beaucoup ces dernières semaines. La France vendait beaucoup d'armes au Portugal. La France soutenait, ou du moins n'attaquait pas le Portugal à l'ONU, alors que le Portugal était beaucoup attaqué par les pays africains indépendants. Et donc, en fait, ce que la France a pu faire, c'est qu'elle n'a pas reconnu le statut de réfugié, mais elle a laissé les Portugais, et notamment les jeunes Portugais, rentrer irrégulièrement comme travailleurs. La France, à l'époque, avait besoin de main-d'œuvre, on les a laissés passer sans leur donner le statut, tout en les maintenant dans un sentiment d'insécurité.
Sécurité totale.
Exactement, qui permettait de faire que si certains faisaient un peu trop de politique ou étaient un peu trop rumants, on pouvait toujours leur parler d'expulsion ou d'assignation à résidence, ce qui avait comme prétention, ce qui n'a pas toujours été une réussite, d'amener beaucoup de jeunes Portugais, notamment de jeunes déserteurs, politisés, maoïstes, communistes ou autres, à un peu plus de calme.
Voilà, c'était le genre de chantage. Et enfin, bon, donc je rappelle, exil, témoignage d'exilés, de déserteurs portugais, traduction d'Hilda Nunes. Ça sera ma dernière question par rapport à ce livre. Finalement, on voyage hein, d'Alger à Malmö, de Paris à Amsterdam, de Lyon à Grenoble, de Santiago du Chili à Lisbonne. C'est un voyage dans l'univers.
Tout à fait, c'est un voyage international. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de... À l'époque, il y avait les... À gauche, du moins, il y avait un fort internationalisme. On combattait, on se mobilisait contre la guerre au Vietnam. En France, il y avait des Français qui aidaient les jeunes Portugais ou qui aidaient notamment le PAIGC d'Amílcar Cabral. Donc, il y avait l'internationalisme était très prégnant. Et ça se voit aussi dans le parcours de beaucoup de ces jeunes réfractaires et déserteurs qui, en fonction de leurs contacts, de leurs opportunités de travail, des pays qui donnaient plus facilement le statut, notamment c'est le cas de la Suède, ou voire même le cas de la Belgique. Les gens allaient dans tel ou tel pays en fonction d'opportunités économiques et politiques.
Alors, le livre va avoir le lancement sera le 21 avril, le jeudi 21 avril à 20h dans la librairie Quilombo.
Exactement. À Paris.
Oui, c'est le 23 rue Voltaire, à Paris 11e, métro rue des Boulets ou Nation. Et très important parce qu'il va y avoir la présence d'un certain nombre d'auteurs qui paraissent dans ce livre.
Tout à fait. Il y aura plusieurs auteurs qui vont pouvoir participer et présenter l'ouvrage et répondre aux éventuelles questions des lecteurs ou des futurs lecteurs.
Voilà, donc ça sera le 21 avril 2022. On aura l'occasion de parler. Alors, Victor, je vais vous garder. Je vais vous garder parce qu'on a déjà quelqu'un en ligne et on va parler dans le livre « Le sens pratique, l'hospitalité, accueillir les étrangers en France 1965-1983 ». Avant tout, Madame Bénédicte Hérault, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle, vous êtes responsable du réseau des correspondants départementaux de l'IHTP, au savoir l'Institut de l'Histoire des temps présents. Alors, ce livre, finalement, c'est peut-être une petite provocation de ma part, mais enfin, par rapport à l'hospitalité, c'est un regard du dedans, par rapport à tout ce qui s'est passé entre 1965 et 1983.
C'est un livre qui essaye d'expliquer comment la France, dans des circonstances locales, la France accueille les étrangers. C'est-à-dire que dans cette enquête qui a duré 4 ans, nous avons essayé d'interroger, d'inverser un petit peu le regard sur les étrangers et de voir comment, c'est là où on interroge le sens pratique, comment on peut accueillir les étrangers, comment la France a accueilli les étrangers.
Alors, il faut dire que c'est une enquête collective menée par le réseau des correspondants de l'Institut d'Histoire du temps présent, c'est ça?
Oui, alors d'ailleurs je vous remercie de donner de la visibilité à cette enquête qui a duré 4 ans. Le réseau des correspondants est une spécificité historique de l'Institut d'Histoire du temps présent. Il est en activité depuis 70 ans, il a été constitué à la fin de la Seconde Guerre mondiale quand les archivistes et les professeurs d'histoire-géographie se sont rendus compte qu'on était en train de vivre un moment historique et ont commencé à constituer les archives de la Seconde Guerre mondiale. Alors ce réseau a connu toute une histoire jusqu'à en fait être associé au CNRS à partir de 1978. Et il est donc spécialisé il se spécialise sur des enquêtes d'une durée en général de 4, 5 ans. Comment la grande histoire se manifeste au niveau local, au niveau des départements, des municipalités, et parfois des régions.
Alors, on se rappelle de l'arrivée des réfugiés en 2015 et plus largement de l'arrivée des migrants sur les côtes méditerranéennes. Aujourd'hui, avec les réfugiés ukrainiens, donc l'histoire, c'est un éternel recommencement.
C'est un éternel recommencement, mais la période sur laquelle on a travaillé est une période surtout de migration économique. Bien sûr, alors pour les Portugais, il y a un petit peu des deux. Il y a une migration économique et une migration politique. Mais c'est une migration très importante qui se déroule sur plusieurs années. On oublie que c'est quand même une migration qui a amené des centaines de milliers de personnes en France. et jusqu'en Allemagne, enfin jusqu'en Europe du Nord, ce n'était pas forcément une migration de l'urgence. Bien sûr, pour les migrants politiques du Portugal qui fuyaient le régime et qui ne souhaitaient pas faire, je crois que c'est surtout la guerre en Angola aussi qui amenait beaucoup de Portugais à franchir les Pyrénées. Il n'y avait pas une migration d'urgence. C'était une migration qui était lente, régulière. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même configuration actuellement.
Alors, il y a pas mal de thèmes, entre autres l'accueil en gare. Tout à l'heure, Victor Pereira va nous parler accueillir les Portugais en Dai. Mais alors, parlons du comité Lyotais. L'accueil en gare pratique l'entre-soi du comité Lyotais. Peut-être brièvement expliquer qu'est-ce que c'était le comité Lyotais et pourquoi parler de pratique de l'entre-soi.
Alors, le comité Lyotais est fondé en 1952 par ce qu'on pourrait appeler les anciens du Maroc, c'est-à-dire les gens qui étaient en responsabilité sous le protectorat du Maroc et qui ont gravité autour du maréchal Lyotet. Donc, le maréchal Lyotet, qui est décédé en 1923, je crois. Cet entre-soi se retrouve, en fait, on est dans les entre-soi post-coloniaux, c'est-à-dire que de retour en France, les gens qui ont servi dans les protectorats ou dans les colonies se légitiment en fait sur une compétence à accueillir les migrants de d'Afrique du Nord. Et dans les années 50, il commence à émerger un bouillonnement en Afrique du Nord et en France aussi, où on sait qu'en 1952-53, il commence à y avoir des mouvements politiques, le retour de Mohamed au Maroc. Il y a juillet 53, il commence à y avoir des manifestations en France. Les années 50, on sent que la France essaie de maîtriser ce bouillonnement politique. Et le comité Lyotais est créé à peu près à cette époque-là dans l'idée de subvenir aux premières nécessités des migrants qui arrivent d'Afrique du Nord. Il y a quand même une idée très paternaliste dans ce... Voilà.
Et après, avec l'arrivée des Portugais, bien entendu...
Et donc voilà, c'est-à-dire qu'après, la migration, il y a une sorte... C'est là où il y a le sens pratique, c'est-à-dire que devant l'affluence de la migration portugaise, et il y a une mise en place très particulière qui se fait au niveau des gares de Lyon et surtout de la gare d'Austerlitz pour accueillir cette migration qui est une sorte de déferlement à partir d'un moment. Ce sont des centaines et des centaines de Portugais qui arrivent et la nécessité fait loi. Ouais. Donc on organise et des personnes bilingues sont engagées par le comité Lyotais pour accueillir les Portugais qui arrivent en France, avec cette idée que les Portugais étaient exploités, les passeurs étaient parfois exagérés sur le prix des taxis, du passage en France, etc. Donc il y avait cette idée de protéger aussi cette immigration.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut lire votre article, page 193. L'accueil en gare pratique l'hospitalité du comité Lyotais. Justement, on parle d'Austerlitz. Austerlitz, où était Marcel Trias, aussi journaliste, qui après a fait un film, Le Centre, en 1967. Mais revenons en 1965, Victor Pereira, parce qu'il y a quelqu'un de très important de tout ce qui s'est passé à l'accueil des Portugais en Dai, c'est M. Jacques Malaba.
Exactement, à Andaï, c'était la principale porte d'entrée des Portugais en France, qui venaient avec des papiers, mais c'était une minorité, ou sans papiers, sans passeport aucun. Et comme je l'explique rapidement, à partir de 1964, la France ayant besoin de main-d'œuvre, et trouvant que la main-d'œuvre portugaise étant de bonne qualité et répond aussi à des nécessités logiques démographiques, l'autorité française décide en avril 1964 de laisser continuer leur chemin à tous les Portugais qui rentrent en France, même sans aucun papier. Et ça, ça a eu... Un des objectifs était d'éviter que les Portugais ne prennent, n'utilisent des passeurs pour traverser les Pyrénées et pour canaliser en gare d'Hendaye les Portugais qui arrivaient. Et donc la population de Hendaye, notamment la personne que vous venez de citer, ont créé un comité d'accueil pour permettre à tous ces Portugais qui arrivaient, d'une part d'avoir un peu d'aide pour se repérer, mais aussi cet changement de politique français et ensuite espagnol, à partir de 65, l'Espagne cesse de pourchasser les Portugais clandestins, mais leur donne des sauf-conduits de 30 jours, ça va avoir pour conséquence que plus de personnes vont venir en France, mais aussi des femmes, des enfants, des personnes un peu plus âgées, qui réussiront à traverser la frontière entre le Portugal et l'Espagne, et ensuite prendront un train ou un bus, et arriveront à Hendaye. Et donc ce comité d'accueil engage notamment des puéricultrices pour s'occuper des enfants, des femmes, qui arrivent fatiguées, mal nourries, pour avoir un peu de lait, etc. Et donc avec l'aide de la SNCF qui leur accorde des locaux, avec l'aide notamment de la mairie de Bayonne et d'autres institutions sociales des Pyrénées-Atlantiques, leur viennent en aide. Et on voit bien ça dans les photos, notamment que prend Gérald Boncourt en 65 en gare d'Hendaye, mais aussi d'un photographe local, M. Martinez, qui prend des photos. On voit l'arrivée de ces personnes qui sont dans un entre-deux, entre deux pays, entre leur pays d'origine, le Portugal, et la France, entre deux conditions, entre habiter dans son propre pays et être étranger dans un pays qui n'est pas le sien et dont on ne maîtrise pas la langue et les codes. Et donc c'est ce comité d'accueil permet de rendre moins difficile ce passage entre deux États.
Tout à l'heure, on a eu un témoignage de quelqu'un qui était passé justement par Hendaye et qu'après, il est parti de Comble-les-Bains. Et c'est la gendarmerie qui a mis à disposition de ces Portugais un bus qui les a ramenés à Paris. À Paris, pas à Paris, mais enfin, au bidonville de Champigny, c'est pour dire ce qu'il y avait à l'époque. Alors, il y a plein de témoignages, des choses vraiment qui nous obligent à réfléchir. Et peut-être, et ça sera ma dernière question pour Madame Bénédicte Hérault. Justement, est-ce que finalement, votre travail... Ce n'est pas un projet pour donner un visage à celles et ceux qui œuvrent au quotidien à la dignité de l'étranger.
Tout à fait. Je pense que c'est ça qu'on a voulu aussi démontrer, c'est qu'il est possible d'accueillir, que c'est dans notre, je dirais, dans les principes même fondateurs de la République française. Et c'est une façon de montrer que ce sont des hommes au service d'autres hommes.
Voilà. Bon, c'est moi qui le dis, être citoyen tout simplement. Mais ça, c'est mon point de vue, ça ne regarde que moi. Madame Bénédicte Hérault, merci. Merci également à Victor Pereira. Donc, je rappelle, le sens pratique de l'hospitalité, accueillir les étrangers en France, 1965-1983, sous la direction de Michel Hastings, Bénédicte Hérault et de Anne Kerland, édition CNRS. Merci. Alors, on arrive à 13h. Justement, c'est pas pour rien qu'on va passer la bande musicale du film Le Salto, justement, qui a été composé par Louis Stille. C'est quelqu'un qui était réfugié aussi, exilé ici. Merci de votre travail. On va continuer à suivre tout ce que vous faites. Merci.
Merci beaucoup.
Et Louis Stille, il ressent aussi d'acheter une
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível deste dia 20 de março. E eu lembro que a emissão tem a redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. E a propósito, é uma da tarde, como diz o outro, passa a expressão trivial, a barriga está a dar horas. Esse propósito arrancou mais uma semana da gastronomia portuguesa nas instalações da Rádio Alfa, na Sala Vasco da Gama. Isto é até o dia 27 de março. O número para reservar a sua mesa, 0145109866. E agora vamos falar de uma iniciativa que vai ter lugar no dia 23 de março na Faculdade de ONU, Universidade de Paris-Nanterre. Trata-se de um encontro das cátedras Camões IP em França, isto no quadro dos 20 anos da criação da cátedra Lindley Sintra da Universidade de Paris-Nanterre. José Manuel Esteves, antes de mais, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Arthur Silva e os rádio ouvintes da Rádio Alfa.
Obrigado por estar em direto connosco. Lembro que é o responsável desta cátedra, Lindley Sintra, mas para falar dos 20 anos da cátedra, temos que voltar um bocadinho atrás, 1974, e com a criação do leitorado, não é?
Do leitorado, exatamente. Portanto, o ensino do português já existia em Nanterre desde 1968, mas um ensino, obviamente, local. Com a Revolução Portuguesa, na altura, o que era o ICALP, o Instituto de Língua e Cultura Portuguesa, que promovia, portanto, a língua portuguesa no estrangeiro, abriu, portanto, expandiu bastante as suas fronteiras, nomeadamente para leste, e criou novos leitorados na Europa. E Nanterre vai beneficiar justamente dessa data-chave, que é 1974, a abertura para a democracia, para a criação desse leitorado em Nanterre, que será efetivamente, em 2002, justamente entramos aqui nos 20 anos da comemoração, transformado numa cátedra de língua e cultura portuguesa.
Ora, a escolha do professor Lindley Sintra, não foi feita assim por acaso, porque trata-se de um grande, grande linguista, não?
Claro. A escolha foi efetivamente feita baseando-se, bom, evidentemente somos um departamento de letras, portanto que o professor Lindley Sintra, o seu perfil é, portanto, é um filólogo, um gramático importante, portanto, um estudioso da história da língua, mas também da literatura portuguesa, sobretudo do período medieval. Foi também o homem que criou, que esteve na origem da abertura dos cursos de português para estrangeiros na Faculdade de Letras, onde eu próprio vim a ensinar, e portanto isso parecia-nos também uma abertura absolutamente fundamental para um departamento de português de língua estrangeira, evidentemente no exterior, e ao mesmo tempo era para nós importante uma figura que representou a oposição ao regime, um homem que esteve ao lado dos alunos e que sofreu na sua própria carreira por ter tomado atitudes corajosas no momento certo, no momento em que não havia democracia.
Ora, qual é o objetivo principal de cátedra Lindley Sintra?
Na realidade, portanto, quando a cátedra nasceu em 2002, o português estava inserido num departamento de estudos ibéricos. Portanto, o primeiro objetivo foi exatamente esse, foi dar força aos estudos portugueses, de modo a que se autonomizasse um departamento português. Na realidade, o departamento português vai nascer com a cátedra, portanto, o departamento português com a sua autonomia, nasce também em 2002, e simultaneamente, uma autonomia, uma autonomização relativamente à investigação. Portanto, criou-se então pela professora Idelete Muzar Fonseca dos Santos, em 2002, o CRIBUS, o Centro de Recherche, o Centro de Pesquisa Interdisciplinar de Língua Portuguesa, que hoje é dirigido pela professora Graça dos Santos, e portanto nasceu simultaneamente. Portanto, foi dar força aos estudos portugueses, que reforçou com a possibilidade de se criar a licenciatura de estudos portugueses em literatura, ela só existia em línguas estrangeiras aplicadas, e a partir daí nasceram os outros graus, evidentemente, de doutoramento na área, portanto, estudos românicos português, com a especialização portuguesa, e portanto podemos dizer que esse primeiro objetivo da cátedra há 20 anos está completamente atingido.
Aliás, bom, mesmo vocês alargaram-se porque há outra dimensão, que é a ação como polo de relações internacionais, mas não é só com o meio universitário português, porque vocês alargaram também ao Brasil.
Exatamente. Essa tem sido, portanto, a nossa política e é um dos focos também, porque da Catalina Leicinter, e estará sempre, evidentemente, em todas as frentes também do nosso trabalho, do meu e do nosso trabalho, efetivamente, com a criação desta temática que percorre a atividade da Catra e também do Querilus, à qual nós estamos sempre associados em todas as frentes, foi de facto também com o seminário A Língua Portuguesa em Culturas, abrirmos não só ao Brasil e a temáticas que são muito contemporâneas, como o espetáculo, as performances, mas também as temáticas da domesticidade, da qual já fizemos um colóquio, as migrações, as mobilidades. Nós temos estendido bastante nos últimos anos e graças à presença de professores especializados na nossa área, como o professor Gonçalo Cordeiro, abrimos bastante para as literaturas africanas de expressão portuguesa e, novidade, é que nos últimos anos nós conseguimos uma abertura para as literaturas e culturas de Macau e de Timor, visto que temos a possibilidade de oferecer essa especialização. Já fizemos um colóquio em 2019 completamente dedicado a Macau, na passagem, nos 20 anos da passagem da administração portuguesa para a administração chinesa. Temos dedicado alguma atenção a Timor, relativamente com o convite a alguns escritores, que aliás esperamos renovar este ano de voltar a Timor ainda em 2022.
Ora, falemos dos diplomas, porque acho que é bastante importante, na medida que a Cátedra tem uma posição central relativamente a um certo número de diplomas, talvez mereça explicações.
Na realidade, os diplomas são diplomas institucionais, portanto, criados, evidentemente, pela Universidade de Nanterre e aprovados pelo Ministério do Ensino Superior em França. Portanto, digamos aqui, o papel da Cátedra é uma espécie de retaguarda, não é? Se criamos um diploma, bom, temos professores, mas o que é que a Cátedra pode fazer? Pode, na realidade, reforçá-los como, através dos projetos de investigação, através de toda uma programação científica e cultural, aqui interessa sobretudo a científica neste caso, porque as cátedras têm sobretudo a programação científica, a atividade científica, ou seja, organizarmos um certo número de colóquios, de jornadas de estudo, de publicações especializadas em livros ou artigos, de convidarmos simplesmente para seminários e conferências para os nossos alunos de mestrado, doutoramento, e tentamos quase sempre abrir estes nossos seminários e conferências, preferimos quase sempre fazê-los em língua francesa por isso, porque são temáticas transversais, imaginemos, por exemplo, sobre mobilidade europeia, sobre imigração, sobre domesticidade, bom, tem a ver, evidentemente, com outras culturas que não são portuguesa, nomeadamente trabalhamos bastante com os colegas de espanhol e italiano dentro do grupo das línguas românicas, e portanto a nossa ideia, a Cátedra tem este papel, efetivamente, de, através dos meios financeiros que dispõe, através da rede de contactos que dispõe, nomeadamente neste caso em Portugal, mais concretamente, portanto, é de pôr à disponibilidade para reforçar estes diplomas e esta formação a sua capacidade de recursos e de intervenção.
Ora, José Manuel Esteves, podemos dizer que a Cátedra Linde Leicintra tem uma colaboração, digamos, mais estreita, nomeadamente com o Camões, ou seja, o Centro Cultural Português da Embaixada de Portugal, com o Iniciado de Paris 8, sem esquecer a Maison du Portugal André de Gouveia.
Claro, evidentemente. Primeiro, porque a Cátedra Língua e Sintra é a Camões, portanto, naturalmente com o centro. E também, queria dizer, também com nós colaboramos bastante também com o CEP, porque a ligação entre o ensino superior e o ensino e outras formas de ensino, portanto, que têm a ver com o âmbito de intervenção da coordenação de ensino é muito importante para nós e, portanto, colaboramos bastante a todos os níveis, quer com a CAPES, a Comissão de Acompanhamento da Língua, mas também em todos os projetos em que a CEP nos envolve. Obviamente que, digamos que a parceria com o Leitorado de Paris 8 e, automaticamente, sendo a mesma pessoa com a professora Ana Paixão, diretora da Casa Cultural, é uma parceria privilegiada, muito privilegiada, porque nós temos o entendimento da abordagem destes fenómenos da mesma forma. Temos esta parceria institucional entre nós, que funciona desde 2011, e só para ter uma ideia, só em atividades culturais há cerca de 900 atividades realizadas de 2011 até hoje, atividades culturais. Evidentemente, temos as atividades científicas, porque todos os nossos colóquios ou jornadas de estudo são sempre em parceria com a Casa de Portugal e o Leitorado de Paris 8. As outras parcerias com os colegas, portanto, de outros polos do Camões, são, portanto, as cátedras que nós vamos pôr em evidência aqui, são também os leitorados, que hoje são poucos, como sabe, mas também com os centros de língua, os centros de língua, por exemplo, de Lyon, de Lille, bom, com o qual temos mais proximidade, mas, enfim, estamos abertos a outras colaborações. E este ano vamos pôr aqui muito a evidência, porque naturalmente em Paris nós é muito fácil organizarmos colaborações com a Catra Solange Parvaux, portanto, Sol Bonne Nouvelle, com a Catra recém-criada Catra Voltaire, sempre trabalhamos com o grupo de investigação CRINIC de Paris 4. A ideia agora é institucionalizarmos um pouco, através deste evento, estudarmos possibilidades de colaboração mais próxima com a Catra Sade Miranda, de Clermont-Ferrand, a Catra Eduardo Lourenço, de Aix-en-Provence, e a recentíssima Catra Mário Soares, da Universidade de Rennes 2. Não é? Portanto, é essa a ideia. Pormos todos em relação para sermos mais fortes também.
Ora, cá frio que precisamente este encontro está enquadrado na saison Croisée-France-Portugal, ou temporada Portugal-França. Uma pergunta, e tivemos a ocasião de falar disto já alguns meses atrás, não é? Há dois ou três anos, porque em França houve uma grande alteração a nível das universidades, há uma autonomia, e havia o receio na altura, precisamente, sobretudo quando se trata de uma faculdade de letras, não é? A questão dos financiamentos, porque as faculdades têm, que as universidades têm que encontrar parceiros que ajudem financeiramente. Relativamente, por exemplo, à Cátedra de Lisboa e às outras cátedras de português, a situação está mais ou menos normalizada ou não?
Sim, normalizada, mas sempre é sempre em ação, obviamente. Eu aqui não posso responder verdadeiramente pelos meus colegas, porque cada um tem a sua autonomia e a sua especificidade. Eu devo dizer que a Nanterre tem uma grande felicidade. É que, portanto, a Catra, sendo, portanto, algo que vem do exterior, ou é algo de um governo estrangeiro, foi extraordinariamente bem acolhida pelas autoridades académicas. E como tal, portanto, eu fui a Catra, quando digo eu, é a Catra, não sou hoje da A Catra foi inserida em todos os, digamos, em todos os órgãos da própria Universidade de Investigação. É assim, por exemplo, que automaticamente a Catra faz parte do centro do CRIUS, da qual, aliás, eu sou diretora adjunto, automaticamente integro, e mesmo a direção, como convidado, do grupo do laboratório de Etude Romane. Obviamente estou inserido no UFR, portanto, uma espécie de faculdade, vamos dizer assim, à maneira portuguesa, de uma faculdade de letras, e eu, portanto, concorro sempre a todos os subsídios. Quer, portanto, tenha a participação do Camões, mas obviamente há a participação do meu laboratório, do CRIUS, de Etude Romane, da minha própria faculdade e também a própria universidade, através dos programas que ela oferece e, por exemplo, a comissão de recherche, à qual eu me candidato todos os anos, obviamente, para os projetos, por exemplo, o projeto dos escritores, as escritoras de portuguesas no tempo da ditadura, beneficiaram, que foi realizado há 15 dias e que nós aqui falamos, teve um subsídio da universidade. O livro que vamos publicar nessa sequência das mulheres escritoras na ditadura têm um subsídio importante também da universidade. Temos de estar sempre, evidentemente, à procura de parcerias em dinheiro, mas eu diria também em géneros. As parcerias fundamentais, por exemplo, é uma parceria de espaço com a Casa de Portugal, André de Gouveia, obviamente, que nos oferece, não é? Se transformássemos isso em dinheiro, representa muitos milhares de euros em espaço que nos dispõe completamente, também aos colegas das outras universidades. Isto é uma, a Casa de Portugal é uma casa extremamente aberta e com a qual nós podemos sempre contar.
20 anos da criação da Catedral Lindley Sintra na Universidade de Paris-Nanterre, uma cerimónia comemorativa ou o encontro, trocando dia 23 de março, no bâtiment W. Weber, anfiteatro Max Weber, aí estamos a falar de filosofia também, entre as 9h30 e as 17h, acesso ao público, bom, provavelmente...
Completamente, é completamente livre.
Mas com passo sanitário, provavelmente.
Não temos o passo sanitário, porque neste momento as atividades a universidade desbloqueou, portanto estamos numa sala que obviamente tem a sua limitação, mas é uma bela sala, portanto o público pode vir, não haverá grande problema, penso eu, em termos de espaço.
José Manuel Esteves, muito obrigado.
E são bem-vindos. Muito obrigado à Rádio Alfa, muito obrigado por Silva pela atenção que dá sempre à Catra Lindley Sintra. Muito obrigado.
E não só, há que referir que vão estar presentes neste encontro o embaixador de Portugal em França, igualmente exatamente. O presidente do Camões, eu chamo-lhe do Camões, mas agora deve-se dizer de Camões e T.
Bom, enfim. Acho que posso dizer também do Camões, não tem grande problema. Será um prazer. Muito obrigado por estar connosco, Arthur.
Obrigado, José Manuel Esteves, e até uma próxima, então. E nós, dentro de um minutinho ou dois ou três, já vamos. Obrigado, Sassetti. Depois iremos falar de cinema, iremos até ao sul da França, Nice, Grasse, Beau Soleil. Catarina Clemente de Barros, bonjour.
Bonjour.
Alors, 23e semaine du cinéma lusophone. Bon, eh bien, la 22. La 22, bon, le Covid, ça a empêché qu'elle soit réalisée complètement.
Et oui, il y a eu le confinement une semaine avant la lancée du festival en 2020.
Mmh. Donc, ça fait que c'est bon, un certain nombre de films qui étaient programmés pour l'année dernière, on va les retrouver cette semaine.
Oui, on a trois films qui effectivement reviennent cette année, puisque on n'a pas pu diffuser la 22e semaine du cinéma lusophone, donc on les retrouve sur la 23e semaine. C'est Buracan, qui est un film brésilien, un thriller très intéressant. La vie invisible d'Aurélis Gouchement, qui est pareil un film brésilien sur l'évolution de la condition féminine par le biais d'une tragédie familiale avec deux sœurs, avec un parallèle qui est assez intéressant. Et enfin, Mosquito, qui est un film portugais où on est en place sur la Première Guerre mondiale, où en fait, il y a un jeune portugais qui s'engage pour aller en guerre au Mozambique. Donc c'est vrai que ça se rapproche un peu de l'actualité, finalement, tout ça. C'était totalement involontaire, mais c'est à mettre en perspective avec ce qui se passe également actuellement.
Mmh. Alors, il faut dire que tout ça, c'est organisé par l'association Espace de communication lusophone, sans oublier l'association Casa de Cabo Verde. Ça, c'est très important, ce partenariat.
Oui, ça a toujours été très important parce que nous, c'est ce qu'on promeut, c'est avant tout les cultures lusophones et font partie la communauté capverdienne. Et c'est une association qui a toujours été présente, qui nous a toujours soutenus. Et on essaye, autant que faire se peut, de toujours promouvoir au moins un film ou un documentaire avec cette association. Et d'ailleurs, cette année, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi une membre de l'association qui viendra présenter Vitalina Varela, qui est un film portugais et capverdien sur une dame capverdienne de 55 ans qui vient enfin rejoindre le Portugal après avoir attendu près de 25 ans finalement son billet pour venir au Portugal. Donc c'est toute une histoire qui ressemble à beaucoup d'histoires de personnes capverdiennes.
Voilà, d'ailleurs, ce film, il est déjà sorti en France, il a fait des festivals, je crois que c'était à Berlin. Je pense que justement, finalement, il y a un certain nombre de thèmes qui ont à voir avec notre vie d'aujourd'hui. Parce que même Bacurau, bon, finalement, c'est quoi c'est présenté d'une certaine façon un peu futuriste, entre guillemets. Mais ça n'empêche que ça a à voir avec l'actualité, ni plus ni moins, tout ce qui se passe dans le certain brésilien.
Exactement, c'est effectivement ça. C'est l'actualité aujourd'hui avec toutes nos préoccupations écologiques, nos préoccupations humaines. Et finalement, chaque film que l'on va présenter aujourd'hui rejoint l'actualité. La condition féminine, l'écologie, la guerre, les migrations et les réfugiés aussi énormément. Nous sommes venus qu'un documentaire qui parle de ça, en fait, de l'immigration portugaise dans les années 1960, qui prenait des trains, qui passait par Hendaye, qui... Voilà. Et aujourd'hui, les motifs se rejoignent, même s'ils ne sont pas exactement pareils, mais ça rejoint actuellement ce qui peut se passer en Ukraine.
Mmh. Oui, et d'ailleurs, José Vieira, bon, c'est lui qui est l'auteur du documentaire, nous sommes venus. Oui. Il met un petit peu en parallèle, quand il a passé la frontière, en 1965, il avait 7 ans, et quand les trains ont été pris d'assaut par des réfugiés en 2015, et bon, maintenant, on a les réfugiés ukrainiens, c'est... On dirait que l'histoire se répète, mais ça va de pire en pire.
Mais on dirait que l'histoire se répète, et d'ailleurs, moi je me souviens, quand j'étais plus jeune et que j'allais en bus en vacances au Portugal, il y avait énormément de personnes ukrainiennes qui venaient au Portugal déjà pour des questions économiques et autres. Donc cette communauté portugaise, elle est aussi liée à cette communauté ukrainienne. Beaucoup d'Ukrainiens ont d'ailleurs acquis la nationalité portugaise, sont restés au Portugal. Et aujourd'hui, j'ai une situation qui est très compliquée. Alors, c'est vrai qu'on a certains films dans cette semaine qui parlent effectivement de la guerre, qui parlent également des réfugiés et des immigrés. Et puis, on a des films qui essayent de donner quand même un minimum d'espoir aussi sur la situation, ou alors qui nous font réfléchir aussi, autant que faire se peut, sur la situation de ces personnes.
Mmh. Il y a un film qui nous... qui nous donne à réfléchir, c'est l'ordre moral de Mario Barroso. Justement, bon, c'est l'histoire de Maria Adelaide Coelho da Cunha. Bon, il faut revenir en 1918, elle est héritière et propriétaire du journal ou Diário de Notícias. Bon, il y a toute une histoire. Donc, on revient en bon, 1918 à la condition de la femme, etc., etc. Bon, on plonge comme on veut, justement, dans un univers complètement machiste, complètement, c'est incroyable. Bon.
Et on se rend compte que d'ailleurs, ça touchait tous les milieux sociaux, puisque finalement, c'était une riche héritière qui décide de s'enfuir avec un jeune homme.
Sous chauffeur, ouais.
Exactement, beaucoup plus jeune qu'elle. Et finalement, ça a des conséquences qui sont assez douloureuses et dramatiques, sans vouloir spoiler le film. Mais c'est vrai que ça donne à réfléchir. Finalement, ça a concerné tous les milieux sociaux. Et cette condition féminine qui a évolué avec les années, on peut pas le nier, mais où il y a toujours parfois des difficultés, même dans nos sociétés actuelles.
Oui, d'ailleurs, ce film-là, il montre aussi la complicité entre les hommes d'affaires, la justice, la médecine. C'est incroyable, hein?
Mais c'est malheureusement quelque chose qui était assez réel à l'époque. Et c'est la force aussi de ce film. C'est de raconter des choses qui ont pu exister et qui nous permet à nous, aujourd'hui, près de 100 ans plus tard, de nous rendre compte que la vie était différente. La vie était différente et d'essayer d'apprendre de notre histoire tout en essayant d'améliorer les choses, mais aussi en s'apercevant que certaines choses n'ont pas changé ou en tout cas très peu évolué.
Oui, une fois qu'on rentre dans un milieu psychiatrique pour sortir, c'est pas évident.
Très compliqué.
Voilà. Alors, on a parlé des films parce qu'il va y avoir des débats aussi, je suppose.
Oui, alors cette année, malheureusement, c'est vrai qu'avec la pandémie, on a marché un petit peu sur des œufs. Donc on n'a pas pu inviter les réalisateurs ou des acteurs comme on fait chaque année. Mais on a pris le soin d'avoir toujours quelqu'un, un membre de l'association ou quelqu'un qui peut parler du contexte du film pour présenter le film avec les membres de l'association. Et pour, à la fin de la diffusion, si les spectateurs veulent échanger sur le film, pouvoir avoir un débat, effectivement.
Alors, il n'y a pas de festival, il n'y a pas de semaine de cinéma lusophone sans musique.
Ah, ça, on est bien d'accord. Et cette année encore, alors on avait mis en place un duo qui était fantastique. Et cette année, à nouveau, avec Madame Papa et Monsieur Lopez, sur un mélange de musique brésilienne et d'ailleurs capverdienne, on les retrouve donc le samedi à 15h sur un concert qui est totalement gratuit à la Providence à Nice, dans le Nice. Et il y a déjà, alors c'était de mémoire en 2019, ils nous avaient fait l'honneur d'avoir déjà chanté ensemble et c'était merveilleux.
Donc, Nice, Grasse et Beau Soleil.
Beau Soleil cette année, oui.
Ah oui, ça se trouve exactement par rapport à Nice, Beau Soleil.
Alors, Beau Soleil, c'est quasiment collé à Monaco. Et il faut savoir que Beau Soleil est une ville où il y a énormément de luso-descendants ou de portugais. Donc, c'est une ville qui est très à même d'être intéressée par le festival. Et alors, cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font une exposition photographique justement sur l'immigration portugaise. Et on a réussi à calquer la diffusion du film « Nous sommes venus » en même temps. Donc ça va être un lancement qui est assez intéressant. On est soutenu et épaulé par le milieu associatif et également par la municipalité. Et on espère que les gens viendront nombreux. En tout cas, il y a matière à venir. Et c'est un film qui pourra vraiment les toucher.
Donc du 23 au 29 mars, une bonne occasion de prendre une petite semaine de vacances et aller goûter de la Méditerranée.
Ah, on aimerait bien, on aimerait bien. Alors c'est vrai que chaque année, le festival est un succès. On espère cette année qu'avec la pandémie, les gens se tourneront à nouveau vers les cinémas. Voilà.
Catherine, Obrigado, merci. Obrigado. Donc, je rappelle, 23ª edição do cinema lusófono, da semana do cinema lusófono, 23 a 29 de março, Nice, Grasse et Beausoleil. Merci, et en séjour, on va vous rappeler, parce que faut dire aussi, vous êtes avocate, spécialité dans le droit du travail, passage à niveau a fait déjà plusieurs fois appel à vous, et on va y revenir, Bon, je ne vais pas vous demander de qu'est-ce que vous en pensez du programme de les uns et des autres, mais peut-être bon, faire un petit bilan, voir comment est-ce que chacun des candidats présente justement ce qui concerne les droits.
Les droits du travail, les droits du salarié.
Voilà, donc pensez-y. Merci, Cathy.
Avec grand plaisir.
Merci, à très bientôt. Estamos aqui ao direto, dentro de alguns instantes contamos ir até o departamento 91, hoje andamos a passear. Estivemos em Portugal, estivemos no sul da França e não só, mas também, e depois iremos até Longpont-sur-Orge para falar do quê? Presumivelmente do festival Ici Ailleurs, as cores de Portugal. Para já, relembro, aqui na Sala Vasta Gama, instalações da Rádio Alfa, já arrancou mais uma semana gastronómica. O ano passado a Covid impediu que tudo fosse feito como deve ser, na dia que essa semana foi anulada de um dia para o outro praticamente, mas podem vir até aqui, até o dia 27 de março para reservarem a sua mesa 01-4510-98-66. Gastronomia igualmente, mas quero falar a nível da cultura. Eu lembro que o espetáculo Rock and Moms de Danninger, esse continua no Teatro Clavel e dia 23 e dia 30 são as últimas representações. Trata-se de um espetáculo para crianças de 3 até aos 9 anos, um concerto de Teatro Clavel, se encontra numa 3, Rue Clavel. Et maintenant, oui, on va jusqu'à Longpont-sur-Orge. Madame Thiébault, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, je rappelle, vous êtes maire adjointe en charge de la culture. Alors, ce festival, ici, ailleurs, bon, il a une petite histoire déjà, non?
Oui, tout à fait. Bonjour et puis merci de votre collaboration avec nous. On est très heureux d'être sur votre antenne. Donc, effectivement, le festival ici et ailleurs existe à Longpont depuis une dizaine d'années. Et ce festival, il a pour but de favoriser la diversité culturelle, de s'ouvrir au monde, et puis de favoriser les échanges également, et de découvrir de nouvelles cultures, et surtout de favoriser le lien social, très important pour nous, surtout en cette période qui est. Les éditions précédentes étaient sur le Japon, l'Italie et l'Afrique. Et nous organisons ce festival tous les deux ans en alternance avec le festival Bulder, dont le thème c'est le développement durable, l'économie sociale et solidaire, qui est aussi un axe très important de notre politique culturelle.
Alors, l'année dernière, bon, avec la Covid, le confinement, bon, il n'y a pas eu de festival, mais de toute façon, ça ne tombait pas dans la bonne année. Alors, ce festival, il arrive, c'est votre ville qui va être aux couleurs du Portugal, mais justement, bon, donc, on a la saison aussi, croisée France-Portugal.
Exactement. Donc en fait, déjà, ce festival, il avait été programmé en avril 2020, parce que l'expo sur la révolution des œillets du 25 avril tombe un samedi, donc on avait prévu de tout faire le jour J. Mais avec le Covid, nous avons dû annuler les deux éditions 2020 et 2021. Et comme je dis toujours, dans les choses négatives, il y a toujours du positif cette année. C'est vrai que réaliser ce festival en 2022, bah, du coup, c'est une vraie opportunité pour nous et une chance, car c'est la saison croisée France-Portugal. Et d'ailleurs, dimanche prochain, le 27, nous aurons la chance d'assister au concert du pianiste João Tiago Magalhães à la Maison du Portugal dans le cadre de cette saison croisée. Et il reste des places d'ailleurs, donc si vous souhaitez y assister, n'hésitez pas à nous contacter.
Oui, d'ailleurs, bon, il faut dire, bon, vous allez visiter les maisons du Brésil et du Portugal.
Tout à fait.
Ça va être une balade. Bon, ça concerne les inscriptions, etc. Le mieux, c'est que nos auditeurs, ils aillent directement www.mairie-longpont91.fr. Ils vont voir tous les détails. Alors, il y a plein de choses. Heure du conte en musique, ça c'est le 23 mars à la médiathèque Piazzolla. Oui.
Oui, tout à fait. En fait, donc, pour ce festival, en fait, notre objectif de ce festival sur Portugal, c'est de proposer une grande diversité de toutes nos actions culturelles et les partenariats qui nous semblent importants pour mettre en avant déjà la culture populaire, mais aussi un peu plus pointue, car on reçoit un éditeur, le libraire et conférencier de renom, Michel Chambaigne, qui est spécialiste des pays lusophones et d'histoire des grandes découvertes. Et également un écrivain célèbre, Yves Léonard, qui est le spécialiste de l'histoire contemporaine du Portugal. Et on a aussi un partenariat avec le consulat du Portugal qui nous a prêté l'exposition qui sera sur Longpont jusqu'à fin avril. Donc, effectivement, je me permets de vous dérouler le programme. Donc, mercredi 23 mars, en partenariat avec la médiathèque, nous aurons l'heure du conte. Qu'il est également important on fait des partenariats avec des acteurs locaux comme la médiathèque, le relais de la petite enfance, le service scolaire, etc. Et le vendredi, donc 25 mars, là, il y aura la conférence à partir de 19h30, conférence sur les Portugais dans le monde du 15e siècle à aujourd'hui, sur les grandes explorations maritimes, donc animées par Michel Chambaigne. Et cela sera suivi ensuite par un apéro voyageur qui sera toujours à Longpont et qui sera en collaboration avec le CCAS, car nos seniors sont partis au Portugal en 2019, il me semble, et donc ils vont venir pour échanger sur leurs souvenirs et leurs anecdotes. Et donc, le samedi 26 mars, là, nous allons célébrer la Révolution des œillets. On va commencer par une après-midi très festive avec un carnavalo qui sera aux couleurs du Portugal.
Donc, il faut se déguiser, mais également décorer les vélos, c'est ça?
Exactement. Exactement. Et puis, après ce carnavalo qui sera dans le centre-ville, on fera une conférence, donc la Révolution des œillets au Portugal du 25 avril, entre mémoire et histoire, à partir de 19h30, avec Yves Léonard. Et suite à cette conférence, nous organisons un repas portugais en partenariat avec un traiteur local et une soirée dansante avec un groupe folklorique à partir de 20h30.
Alors, Madame Thiebaud, alors il faut dire, là c'est pour tout le public, mais c'est payant, il faut le dire.
Oui, donc le repas est déjà complet.
Oui, c'est tout à fait, pardon.
Oui, le repas portugais et puis la conférence, en fait, c'était payant, mais on est complet. Bon, et ensuite, il nous reste de la place pour le dimanche 27 mars où nous allons on fait une sortie culturelle à la Cité internationale universitaire de Paris.
Bon, c'est-à-dire qu'il va y avoir un bus à disposition des gens, c'est ça?
Oui, donc le départ, il sera en face de l'école de Lormois à Longpont-sur-Orge. Et le départ se fera en bus à 13h. Si vous souhaitez réserver, donc comme vous avez dit tout à l'heure, vous envoyez un mail à culture@mairie-longpont91.fr ou au 06 82 17 96 03.
Alors, tout ça, c'est du 23 au 27 mars, festival ici et ailleurs aux couleurs du Portugal. Mais entre-temps, il y a tout un tas de choses qui sont déjà prévues durant les mois de mars et avril.
Tout à fait. Mais vous êtes bien au courant, dis donc.
J'ai mes sources.
Mes sources. Donc, effectivement, en partenariat avec notre médiathèque, il y aura une exposition thématique. Donc, il sera à disposition des romans sur le patrimoine artistique et traditionnel, sur les grands explorateurs portugais, des guides touristiques. Le relais de la petite enfance également. Les enfants pourront faire des activités manuelles et des ateliers d'éveil pour écouter de la musique portugaise. Et puis, on est très heureux parce que l'accueil de loisirs nous a concocté une surprise. Mais ça, je ne peux pas vous le dire. D'accord. Il va falloir venir. au carnaval pour voir cette belle surprise qu'ils nous ont concoctée. Et puis également dans les écoles. Les écoles, dans les cantines, eh ben, il y aura des mets portugais tout au long du mois. Et l'exposition, bien sûr, en soutien avec le consulat qui nous a prêté une exposition qui est bilingue et qui sera au gymnase des Garances à Lompons. Donc, c'est pour les deux cultures, française et portugaise, que les gens viennent découvrir le Portugal d'une façon qu'ils ne connaissent peut-être pas.
Alors, le jeudi 24 mars, est-ce que les petits écoliers vont déguster pastel de nata?
Ah, ça, c'est la surprise. Je ne peux pas tout dévoiler. Bon,
d'accord.
Parce que s'ils m'écoutent, s'ils m'écoutent.
Mais normalement, ça sera plus une surprise. Alors, mais par rapport justement à la médiathèque, une question, puisque bon, maintenant il y a un certain nombre de choses qui vont être présentes, bon, des romans, etc., etc. Est-ce que finalement la médiathèque est là, dans ça concerne les livres, des livres en langue portugaise, ou est-ce que finalement cette semaine ça va permettre peut-être d'ouvrir un peu les rayons à la littérature portugaise en portugais?
Ben, je pense, oui, elles ont des livres en portugais, elles ont surtout des livres de contes, parce qu'il y a des ateliers contes. Il y a eu quelques années, il était programmé des ateliers contes, et donc il y a pas mal de livres sur des contes portugais qui sont en français, parce que, ben, en fait, le but est quand même de faire découvrir la culture et les contes ben, aux Français, et donc il faut que ce soit... généralement, dans les livres, il y a une partie qui est en français et une partie qui est en portugais, qui est vraiment accessible à tout le monde. Le but, c'est vraiment la découverte culturelle du Portugal.
Une question annexe. Est-ce que Lompons-sur-Orge, il y a de l'enseignement portugais au niveau des collèges, au niveau des lycées? Est-ce que vous êtes au courant?
Non. Alors, à Lompons, il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée, il y a juste une école primaire, enfin, trois écoles primaires et maternelles. Et je sais qu'à Antony, il y avait, parce que moi, je l'ai fait, l'enseignement portugais dans le cadre du collège et du lycée, mais que ce soit à Saint-Michel-sur-Orge, je ne pense pas.
Donc, vous voulez dire par là qu'il y a tout à faire, là.
On va refaire.
Donc, vous-même, vous avez eu des cours de portugais quand,
Oui. Moi, j'ai étudié le portugais de... Ben, je suis d'origine portugaise, déjà. Mes deux parents sont portugais et moi j'ai étudié le portugais en première langue dès la sixième jusqu'à mon BTS, donc je le lis, je le parle et je l'écris.
Et em que localidade foi, se não quer ser muito indiscreto, não lhe fazer perguntas pessoais, mas onde é que estudou português, em que localidade exatamente?
Antony.
Em Antony. Ah, pois, voltamos a Antony, pois.
Foi a Antony, no Colégio Lavoisier, na minha época... os estudantes éramos todos de filhos de imigrantes, então havia turma dedicada a Portugal, mas hoje já não existe, infelizmente.
Donc, il y a un travail à faire. Bon, on va essayer de puisque vous avez quelqu'un qui doit passer aussi du conseiller, etc., etc. Il y a la coordination de l'enseignement. Il faut peut-être leur, je ne dis pas tirer les oreilles, mais il faut leur dire, bon, vous avez oublié là, cette partie du 91.
On est d'accord, on est d'accord. J'ai encore beaucoup de travail à faire.
C'est vous,
pour ça qu'on est là.
C'est vous l'élu, hein. C'est pas moi.
Exactement, mais c'est pour ça qu'on est là. Et il reste encore quelques années avant la fin du mandat. Où on n'a pas tout fait, mais c'est vrai que c'est très important.
Voilà. Alors, vous êtes maire adjointe en charge de la culture, sport, vie associative et communication. Hein,
Tout à fait.
Alors, la vie associative, est-ce qu'il y a une association portugaise? Est-ce qu'aux alentours, ils bougent un peu? Qu'est-ce qu'ils font?
Donc, en fait, nous, dans les associations, oui, il y a une association qui s'appelle Liberty Langue, où on peut prendre des cours de plusieurs langues, l'anglais, le portugais, l'espagnol. Voilà, et puis c'est grâce aussi à notre volonté de faire découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures aussi qu'on est là. Et on espère bien sûr attirer beaucoup de personnes. C'est pour ça que je vous invite très vivement à venir découvrir cette belle culture à Lompons-sur-Orge dans 91. À partir de mercredi, ou plutôt à partir de vendredi prochain.
25,
vous êtes les bienvenus.
Ah oui, avec M. Michel Chandaigne, éditeur, traducteur, écrivain. Et après, le samedi 26, célébration de la révolution des œillets avec Yves Léonard, historien, spécialiste de l'histoire contemporaine du Portugal, un grand monsieur aussi.
Et nous aurons la chance aussi d'accueillir une personne du consulat qui est en affaires des charges, des affaires sociales, qui nous a fait le plaisir, qui nous fait le plaisir de venir samedi.
Oui, Miguel Gomes, je crois. Voilà. C'est pas l'attaché culturel et pas seulement. C'est quelqu'un qui connaît très, 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 très bien la communauté portugaise et la région parisienne aussi. Madame Thiebaud, merci. Donc, je rappelle le mieux pour tous ceux qui vont avoir des détails jour par jour, heure, local, etc. L'endroit exact, donc www.mairie@lompon91.fr.
Merci beaucoup.
Merci Madame Sylvia Thiebaud, je rappelle, maire adjointe en charge de la culture à Lompon-sur-Orge. Merci, à très bientôt et bien entendu, bonne fête et bon festival.
Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci, portez-vous bien. Au revoir.
Merci. Et il y a à propos de l'apocalypse, justement, je t'avais parlé de la semaine gastronomique à cette heure. O Manuel está a olhar para mim e dizer: quando é que acabas a emissão? Porque eu quero ir almoçar. Bom, está bem, eu também penso a mesma coisa, mas enfim, o Festival de Gastronómico de Gastronomia na Sala Vasco da Gama, nas instalações da Rádio Alfa, isto até o dia 27 de março, para reservarem sua mesa, 0145-1098-66. E ou ainda tenho outras coisas para vender, entre aspas, não ganho nada com isto, mas enfim, mas acho que ganhamos sempre ao ir a um concerto, ir ver uma exposição e tudo isso, falaremos dentro de alguns instantes, mas para já uma respiração musical.
Eu país, meu país, do céu límpido calmo, de campos cultivados, de praias e montanhas. Ouço a tua voz triste, ó meu país sem culpa. Sua nos dias mortos, no amanhecer cinzento, e é para ti meu canto, a minha esperança, meu país. Onde a traição domina e o medo assoma nas encruzilhadas, meu país de prisões e covardia e de ladrões de estrada, meu país de operários, cavadores, marinheiros, meu país de mãos grossas, plebeu sensual, resistente, é para ti meu canto, a minha esperança. Para ti, meu país, levanto a minha voz sobre o silêncio desta noite de angústia. Nada pode calar o nosso rio. sua belle.
E o tema O Meu País, que está em consonância com 3 quartos de emissão de hoje, eu lembro, dia 20 de março, e a emissão tem redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. E estamos praticamente a terminar. Lembro a Semana Gastronómica aqui na Sala Vasta Gama, instalações da Rádio Alfa em Valentão, até o dia 27 de março, numa reservação mesmo, 01 45 10 98 66. Entretanto, hoje, a partir das 16 horas, mais um encontro mensal da Gaivota, a partir das 16 horas, disse no Château Laurence, 11 Avenue Georges Clemenceau, 200 metros da estação do RER A. A estação é Brie-sur-Marne, fado, poesia, literatura e não só. E a semana cultural da Associação Cultural Franco-Portuguesa Intercomunal de Viroflay, tudo arranca no sábado, dia 26, às 17 horas, com uma exposição. Depois haverá uma conferência sobre os azulejos, dia 27, na quarta-feira, dia 30, vão uma visita dos alunos inscritos no curso de português com o professor, isto à exposição. Na quarta-feira, igualmente, mas às 20h30, haverá uma mesa redonda sobre o ensino de português aqui em França, com a coordenadora Adelaide Cristóvão, e depois no sábado às 15 horas, apresentação de um filme que fala da evolução do artesanato português. E a exposição essa encerra no dia 30, disse eu? Não. Dia 3 de abril, assim aqui, para cima, se desculpa. Sem esquecer o tema que falámos há bocado igualmente, a partir do dia 23 e 27 de março, Festival Ici et Ailleurs, au Couleur du Portugal, em Lompon-sur-Orge, no departamento 91. Fala-se no 25 de abril, fala-se igualmente de descobertas e não só, e gastronomia. Voltamos a ela. Bom, enfim, o melhor é dizermos bye-bye e damos encontros para o bem na próxima semana, próximo domingo. Será dia 27 de março. Ah, e não se esqueçam que a primavera começou ontem, já agora.